Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petite émission de QNR, questions-réponses aujourd'hui, auprès du grand Charles, le vénérable octogénaire, qui va répondre à « Grand maître peut-il le faire ?» Oui, il le peut. Donc nous y voilà. Alors écoute, rentrons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, aussi bien sur les États-Unis que sur le Japon qui nous embête, et aussi des questions sur l'historionomie. Alors je sais que cet après-midi vous faites une émission avec Léonard et Philippe Fabry.
Oui.
Et c'est très intéressant parce que justement nous avons une question sur Philippe Fabry et tu vas pouvoir te mettre en bouche. Je commence toutefois sur une première question qui t'a été posée par Louis Gauthier sur les USA et qui te dit bonjour à vous deux, un immense merci pour ce partage de compétences et de savoir. J'ai quitté le marché des actions US, S&P et Nasdaq, car les valeurs y sont trop concentrées à mon avis. Pour autant, le repli des États-Unis sur eux-mêmes pour sauver l'industrie me paraît une opportunité. Que pensez-vous d'ajouter au portefeuille un peu de valeur industrielle US par le biais d'un ETF ou d'un stock picking? En fait, ce que dit Louis, c'est qu'il a l'impression que le Nasdaq et ses vrai, se concentre sur quelques valeurs.
Si ce n'est une.
Mais que pour autant, on a un système d'exploitation qui, au
dans
niveau de l'industrie et de l'entreprise,
choses.
Lui paraît ce qui est vrai.
Ce qui est tout à fait vrai. Alors, c'est une bonne question. Le problème des États-Unis, si vous voulez, c'est que Nvidia, là, la grosse valeur, a vu une hausse de sa capitalisation boursière, elle est passée littéralement de 400 milliards à 4,5 trillions de dollars en l'espace de 3 ans.
C'est dingue, c'est-à-dire qu'elle concentre
Et puis surtout, si tu veux 4,5 trillions, personne ne sait ce que c'est. Quoi. Tu vois, c'est tellement de pognon qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est plus que la capitalisation boursière de tas de pays, bref. Donc, il y a un risque aujourd'hui que quelques-unes de ces valeurs, dont Nvidia, repassent, je sais pas, de 4,5 trillions à, je sais pas, à 1 trillion, j'en sais rien, et donc ça aurait un effet disproportionné sur les indices. Et donc, la première réponse à ces questions, c'est que probablement, pour ceux qui veulent rester aux États-Unis en s'appuyant sur l'idée qu'ils développent, ça me paraît juste, c'est de passer sur les ETF equally weighted. Pas sur les ETF market cap weighted, mais de passer, tu achètes le ETF le 500, et chacune des valeurs représente un 500e. Donc il y a beaucoup moins ce risque d'un effondrement de la capitalisation de 3 ou 4 valeurs qui te fait perdre 30 ou 40%, alors que toi, tu ne demandais rien à personne, tu ne savais pas qu'elles étaient aussi grosses. Donc la première des choses, c'est, si vous le pouvez, passer de, c'est pas difficile d'ailleurs, l'ETF 500 market cap weighted, l'ETF 500 equally weighted, où chacun fait un 500e, comme ça vous n'avez pas ce risque, pour ceux qui veulent rester aux États-Unis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il existe des valeurs européennes qui ont beaucoup d'actifs aux États-Unis. Je pense par exemple, Air Liquide, encore une fois, et Schneider, etc. Donc, vous pouvez essayer de faire ça, mais la contrainte des États-Unis, telle que je la vois aujourd'hui, pour les États-Unis de développement de l'industrie, ça va être l'électricité. C'est-à-dire que les développements industriels aujourd'hui, qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle, demandent une énorme augmentation de la capacité de l'électricité.
Bien sûr, bien sûr.
Les Chinois ont investi absolument massivement dans l'électricité, donc ça, ils n'ont aucun problème. Mais les Américains, ils n'ont même pas commencé. Pour l'instant, ils ont, tu vois, il faut bâtir des centrales, il faut en rouvrir d'autres. Par exemple, Microsoft, je crois, a racheté une vieille centrale nucléaire qui va redévelopper, etc.
Juste eux-mêmes
pour s'en occuper, pour avoir leur propre électricité.
Et ça veut dire que l'État américain permet cette délégation?
Ah ben, de toute façon, l'électricité...
contrôle, j'imagine.
Oui, mais en ce qui concerne l'électricité, c'est organisé par ce qu'on appelle des « utilities », qui sont la plupart du temps locales, les utilisent en Californie ou au Texas,
oui,
etc.,
et qui sont
régulées par les États locaux, pas par l'État
fédéral.
Pas par l'État fédéral. Donc, je sais par exemple que notre ami Richard, lui, il est au Texas, en train de développer autant qu'il peut des histoires de justement, de capacité d'électricité, parce que c'est ça dont le Texas va avoir besoin. Et là,
Que le Texas, il faut voir que beaucoup, je ne sais pas si vous avez suivi, mais beaucoup de personnes, enfin de grandes entreprises qui avant étaient dans le bassin de San Francisco et dans toute cette recherche de développement, en ont eu marre de la gestion californienne qui est faite avec les pieds et des impôts, et se sont dit on va aller se mettre au Texas, et parce que les taxes y sont mieux, il y a de l'espace, on va pouvoir avoir des beaux...
Et il y a aussi autre chose, il y a les réglementations, c'est-à-dire que la Californie, ça a été le paradis des bobos, et j'empêche les gens...
Et tout ça parce qu'on veut les grenouilles à ventre bleu de se développer, et ainsi de suite.
Donc si vous voulez, vous avez des tas d'endroits où il n'y a plus d'électricité au Texas. Enfin, ils empêchent, par exemple, les voitures à essence de rouler, etc. Mais si vous voulez des voitures électriques, il n'y a pas assez d'électricité pour ça. Donc, on arrive en Californie à une espèce de contradiction entre la volonté des législateurs bobos et puis la réalité de la production d'électricité qui n'est pas suivie, quoi. Donc,
sans compter qu'il y a eu aussi, on n'en parle pas, moi j'ai une amie dont le mari vient d'être déployé à Los Angeles, mais à cause des feux l'an dernier, le marché de l'immobilier est horrible. Oui. Tu ne trouves rien. Les gens sont dans des motels. Tu ne trouves rien à louer, encore moins acheter.
Parce qu'ils empêchent aussi la construction. Parce que la construction, n'est-ce pas, il faut sauver la planète.
Oui, il faut des grenouilles à ventre bleu, encore une fois. Donc
tout ça, c'est... Donc, il est... Si ce que je vous dis est exact, il va y avoir une crise électrique dans les Californies, dans les deux ou trois ans qui viennent, que c'est pas possible autrement, parce que vous pouvez pas. Et du coup, le prix de l'électricité aux États-Unis commence à monter pas mal. Dans certains États, ça commence à monter même assez fortement. C'est-à-dire que le prix du pétrole monte pas, parce qu'ils font pas de... Mais le prix de l'électricité monte, parce que les capacités de production d'électricité sont très contraintes. Donc, je sais pas. Donc, pour moi... investir aux États-Unis, ça paraît une bonne idée, mais il y a cette contrainte de l'électricité dont je ne sais pas très bien comment elle va être résolue. Donc si vous achetez, j'en sais rien, je dis des bêtises, je ne connais pas, mais par exemple BASF, qui est une société qui produit là où elle vend, j'espère que BASF, si elle s'est mise plutôt au Texas qu'en Californie. Quoi, tu vois ce que je veux
j'espère
dire
pour elle. C'est le genre de choses
qu'il faut regarder.
Voilà, c'est le genre de choses à faire si vous recherchez des titres et que vous faites donc du stock picking, c'est-à-dire que vous étudiez. By the way, c'est pas pour faire de la pub à un concurrent, mais c'est ce que
c'est
fait
pas
la.
Un vrai concurrent, oui.
C'est pas un vrai concurrent, c'est ce que fait la société Ibou, oui, avec qui Charles a des bons contacts, et il regarde justement titre par titre. Alors peut-être plus sur les valeurs européennes, mais ils seraient capables de le faire sur les valeurs américaines.
Ils le font aussi.
Ils le font aussi.
Ils font du bon travail d'analyste financier, ce que nous on fait pas du tout.
Voilà, c'est des métiers différents. Hein, encore une fois, et ils font ça très bien, et c'est des gens charmants par ailleurs. Donc voilà. Ça ne gâche rien. Je vais reprendre la question de Baptiste qui vient sur la question dont je te parlais, de Philippe Fabry. Alors, je n'ai pas récemment suivi les travaux de Philippe Fabry. C'est quelqu'un que j'avais découvert, figurez-vous, il y a plus de 15 ans, parce qu'il avait écrit un livre que j'avais adoré sur le Rome, du libéralisme
au socialisme,
et qui était pour moi une analyse absolument fondamentale avec tout ce qui va bien dans le libéralisme et tout ce qui va mal dans le socialisme.
C'est-à-dire qu'il avait montré que Rome avait commencé avec des principes parfaitement libéraux, en particulier dans le droit, etc., et que petit à petit, avec la croissance de l'État, on est passé d'un État de droit au droit de l'État, et du coup, ça commençait à se détériorer, puis ça s'est terminé encore en autre boudin, quoi.
Et que, comme toujours, quand un État finit par devenir sa propre puissance avec sa propre autocratie, quelque part, il devient gélifié dans ses propres soucis, ses propres questions, et on arrive dans quelque chose qui, à la fin, est un État obèse, qui est complètement bouffé par l'interne de sa propre structure.
C'est ça.
Et ce livre était... J'avais essayé de le traduire en anglais, sûrement mal. Aujourd'hui, il le ferait par l'IA. Mais c'est pour moi un petit ouvrage que vous devez vraiment lire si vous ne l'avez déjà fait.
Il y a d'ailleurs une recension, et je crois que pour sa réédition de son livre qui a été réédité, je crois que je l'avais fait une. Une préface, oui, il me semble bien. Mais je suis pas sûr. Hein.
En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qu'on aime beaucoup. Enfin, moi, j'admire beaucoup. Alors, en plus, il a beaucoup d'humour, ce qui est rare chez les gens qui sont très intelligents. Non, en vrai, c'est faux ce que je dis. Les gens très, très, très intelligents ont de l'humour. C'est un peu ceux qui ont des esprits médiocres et qui se la pètent, qui, du coup, pensent qu'il ne, pour être intelligent, faut être ennuyeux. Moi, je pense que les vrais esprits intelligents, comme Oscar Wilde, sont des gens qui ont toujours, en tout cas, un humour noir et souvent du grain à moudre.
Et de l'humour, si vous voulez, la différence, pour revenir à ton idée, pour moi, l'humour, c'est de se moquer de soi-même.
Bien sûr.
Alors que l'esprit, c'est de se moquer des autres. Donc, les Français ont de l'esprit, mais ils n'ont pas d'humour. Avoir des Français qui ont de l'humour, c'est assez rare.
Enfin, étant donné la période actuelle, quand on voit les députés actuels, je me contenterais de l'esprit, si toutefois il y en avait. Un mot d'esprit, de temps en temps, ça serait agréable.
Bon, il y a le petit du Front National là.
Il y a Jean-Philippe Tanguy qui a de l'esprit, mais il est bien le seul. Et moi, j'aimais bien, dans le temps, quand je regardais des débats parlementaires dans mes jeunes années, qu'il y ait un petit peu d'allant. Et je dois dire que tous les ministres de la Macronie sont des bonnets de nuit.
De la méchanceté amusante.
Oui, mais ils sont des bonnets de nuit incroyables. Écoute, tu regardes, je sais pas, mais tous, enfin, je sais.
Y compris le président.
Non, mais ou alors ils vont dans le pathos. Et ce qui est encore pire, parce que tu vois les ficelles, et ça m'ennuie. Voilà, alors, Philippe Fabry nous prédit une sorte de nouvelle Trente Glorieuses en France après la fin du nouveau conflit mondial. Alors de toi, moi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Faisons une expérience de pensée. Comment imaginez-vous ma France de ces Trente Glorieuses du 21e siècle? Je ne sais pas comment Philippe Fabry imagine une France des Trente Glorieuses à venir.
Ce n'est pas difficile pour qu'on ait les Trente Glorieuses à nouveau. Il faut que le peuple français soit libre comme il l'était dans les Trente Glorieuses. Depuis les Trente Glorieuses ont commencé à s'arrêter avec Monsieur Giscard d'Estaing, qui pratiquait ce qu'on appelait le libéralisme avancé. Vous savez, dès que vous mettez quelque chose à côté du libéralisme, c'est plus du libéralisme. Donc il contrôlait les prix, il contrôlait le crédit, il contrôlait les changes, il contrôlait, il augmentait les impôts, tout ça, c'était tout à fait remarquable. Donc, pour revenir à votre question, c'est si, pour que la France se reconnaisse étrangère, il faut qu'elle redevienne libre, c'est-à-dire qu'elle retrouve ses souverainetés, et qu'on sorte de cette machine infernale qui est devenue l'Europe, quoi, c'est tout. Et qu'on redevienne la nation française.
Mais, avec une part d'industrie qui est aujourd'hui à 9%, la véritable différence que pourrait avoir la France, c'est quelque part une croissance schumpeterienne, c'est-à-dire avoir des esprits suffisamment forts et suffisamment neufs et suffisamment entreprenants pour qu'il y ait une sorte de « ok, on est en bas de la mare, on donne un coup
mais
et on remonte ».
On en a plein, de mathématiciens, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a des tas de trucs en France qui se passent avec des mathématiciens, on a tout ce qu'il faut. Il faudrait aussi que la France cesse d'être centralisée, c'est-à-dire qu'on casse l'éducation nationale et qu'on rende l'éducation, je sais pas, aux provinces, par exemple. Il faudrait qu'on rende aussi les hôpitaux aux provinces ou aux communes. Il faudrait qu'on cesse cette espèce d'obsession qu'on a à envoyer toutes les dépenses, tout l'argent à Paris pour qu'ils redescendent. Je vous donne un exemple idiot, mais je crois que c'est en 1998-97 que... la France a décidé que les grandes banques, tu sais, qu'il y avait des banques à réseau, autrefois, le pognon local restait localement, tu vois, le pognon, les agences à Toulouse avaient les déposants, puis c'était leur boulot de prêter aux gens. Maintenant, le pognon remonte tout à Paris, et c'est simplement, il faut qu'il y ait une excellente occasion d'investir à Toulouse pour que le pognon redescende dans l'autre sens. Donc, tu assèches complètement toute la province qui crève.
Mais surtout, avant, ce que tu pouvais faire, parce que je me souviens, on avait étudié ça, c'est que tu pouvais escompter tes effets de commerce. Donc, toi, tu étais, un petit verger en Normandie. Tu attendais, tes fournisseurs te payaient à 90 jours. Toi, tu avais cet effet de commerce. Tu pouvais aller voir ta banque, ton relais Banque de France en local, en disant, voilà, j'ai ce fournisseur qui va me payer à 90 jours, est-ce que vous pouvez me faire l'avance de trésorerie? On te faisait l'avance de trésorerie.
Avec qui était le taux d'intérêt pour 90 jours.
Pour 90 jours, et ça te permettait d'avoir ton fonds de roulement, parce que quelquefois, tu n'avais pas les liquidités, or tu avais besoin sur un temps...
Et le pire, le plus mauvais payeur en France, c'est l'État. C'est-à-dire que lui, il ne paye pas 90 jours, mais parfois beaucoup plus. Donc, logiquement, la Banque de France devrait escompter tous les effets de l'État immédiatement, et puis ensuite se débrouiller pour récupérer le pognon. Mais ça voudrait dire qu'elle fait son boulot. Mais aujourd'hui, j'ai vu que le gouverneur de la Banque de France avait mis un t-shirt avec une casquette verte se leulait comme un...
Comme une culotte à un âne.
Comme une culotte à un âne, et sur la calvaire verte, c'était « Make Europe Great Again ».
Mais bah, pour la « Make Great Again », il faudrait déjà qu'elle eût été « Great One Day ».
Mais c'est la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'elle a été grande, hein? Quand est-ce qu'elle a été grande? Si elle a été grande, je ne sais pas très bien quand. Mais surtout, ce n'est pas le rôle du gouverneur de la Banque de France, qui est un fonctionnaire, de prendre une position politique sur l'Europe. Ça ne le regarde pas, il n'a rien à dire. Bon, je veux dire, maintenant, c'est un employé de l'Europe, mais... en plus, il avait, je crois qu'il avait un t-shirt. Alors, le gouverneur de la Banque de France avec un t-shirt et une casquette, je me suis dit vraiment, on est tombé bien bas. Quoi.
Alors, tu as beaucoup, beaucoup de nos followers de l'Université de l'Épargne et de nos followers généraux de l'Institut des Libertés qui ont des questions sur le yen. Oui. Alors, je te pose la question de Nathan. Bonjour à vous et merci. Je me permets de reposer la question que j'ai mise sous la dernière vidéo. Pourrait-on en avoir un avis sur l'élection de Mme Takahashi et la chute du yen?
Je vais répondre rapidement. C'est que Mme Takahashi, le Parti libéral, est en train de se scinder en deux. Donc, il ne se passe plus rien. Personne n'a moindre idée de ce qui va se passer au Japon du point de vue politique. Mais enfin, Mme Takahashi, apparemment, elle ne sera pas le prochain Premier ministre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au Japon, mais...
Je finis la question. Cette élection a entraîné une hausse des taux des obligations japonaises. Je me dis que cela devrait attirer les investisseurs et donc faire monter le yen. Mais si l'on fait le raisonnement inverse, cela fonctionne aussi. Qui dit taux bas dit augmentation de la masse monétaire, dit baisse de la valeur du yen. Tout me conforte donc dans l'idée de l'augmentation du yen. Et pourtant, on voit l'inverse depuis 2015. Il y a une symétrie parfaite entre le Japan Euro et le Japan 10-year. Que se passe-t-il? Merci, prenez soin de vous.
Voilà, alors moi j'ai regardé ça beaucoup, j'ai fait des graphiques dessus, je les avais montrés dans le temps. En principe, si vous voulez, quand les taux d'intérêt commencent à monter au Japon, le pognon qui part à l'étranger, qui est responsable de la baisse du yen, hein, c'est les Madame Watanabe qui va mettre son argent de l'épargne, elle arrête de le faire, elle le remet à l'intérieur.
Attends, je vais aller moins vite parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le raisonnement. Voilà ce qui se passe. Vous êtes un petit porteur, vous avez votre argent de retraite, on va vous appeler au Japon Madame Watanabe. Vous vous retrouvez avec votre petite pécule. Si vous le mettez à votre crédit agricole local, il vous donne 0, vous avez une inflation à 3. Donc vous vous dites, écoutez, plutôt que de me faire bouffer mon capital, puisque je vous rappelle, ça vous donne du 0 et que l'inflation continue, vous dites, je vais prendre mon argent et je vais acheter des obligations américaines.
Ou australiennes,
ou qui sont à singapouriennes, ou voilà.
Qui sont à Ken.
Parce
et donc,
que au moins,
quand,
j'aurais
et quand vous faites
un...
ça, vous vendez du yen et vous achetez du dollar pour le faire, ou de l'euro. Et donc ça fait monter l'euro, ça fait par rapport au yen. Donc, alors la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les taux longs sont déjà passés à peu près à 1,5, 1,6, qui commence à être un peu mieux. Mais les taux courts sont restés à 0,5. Donc, ce qui veut dire que quand les taux courts sont à 0,5, à la banque, vous avez 0. Quoi, parce que...
Avec une inflation.
Donc, pour l'instant, les capitaux sortent. Et ça continue à sortir. Et c'est très agaçant. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir que le Japon mette ses taux d'intérêt à un niveau normal. Quoi.
Oui, mais le problème des gens qui nous suivent, c'est qu'ils disent « oui, mais le moment où un autre mois... »
C'est toujours dit sur la parité des pouvoirs d'achat, c'est que ça revient toujours à la moyenne, mais on ne sait jamais quand. J'ai vu des cas où ça durait 2-3 ans. En principe, ça dure 1 an et demi, 2 ans, mais là, ça fait déjà 1 an que ça dure.
Et ce que je voudrais vous dire pour ceux qui critiquent et ceux qui sont dans le portefeuille, c'est qu'encore une fois, un portefeuille, c'est un espace commun. Arrêtez de penser les positions une par une. Quand on vous regarde, vous voudriez tous que les 4 positions soient en haut. Mais ça n'est pas possible. Vous avez dans notre portefeuille l'or qui
alors,
va très bien, merci.
Alors, une point important sur l'or, c'est que si le yen baisse, c'est peut-être que Madame Watanabe...
Achète de l'or.
Est en train de sortir pour acheter de l'or. Donc,
attention à ton micro.
Donc, grosso modo, ça veut dire que vous devez regarder la position. Les deux antifragiles, c'est l'or et c'est le yen. Vous faites la moyenne des deux, vous n'êtes pas si mal que ça. Vous avez qui est à moins 8 et l'autre qui est à plus 40. Donc,
voilà. Notre portefeuille, si vous le pensez encore une fois dans sa globalité, va très bien. Arrêtez de me dire sur les réseaux sociaux « Mais pourquoi Charles ne nous dit pas de sortir du yen ?»« Pourquoi Charles ne nous dit pas de sortir ?»
Parce que c'est le jour où le marché baisseront des actions, le yen montera parce que Mme Watanabe arrêtera d'acheter. et commencera à vendre ce qu'elle a à l'étranger pour prendre ses gains. Et
donc, alors, peut-être que vous en avez marre d'attendre, ça, je peux l'entendre, mais le raisonnement reste valide pour ce qui est de l'analyse des parités des pouvoirs d'achat. Si vous en avez marre d'attendre, eh ben, et que vous avez envie d'attendre dans une autre monnaie qui ne vous donnera rien, vous pouvez toujours aller sur toutes les couronnes suédoises ou ainsi de suite, vous pouvez aller sur le franc suisse, mais ça ne vous donnera rien. Là,
vous pouvez
ça
aller
vous
sur,
donne
le,
rien.
Sur la monnaie chinoise qui est de bonne qualité.
Alors, le problème, on va...
il faut qu'on travaille dessus,
il faut
ça.
Qu'on travaille dessus pour voir comment vous pouvez toucher du yuan d'ici parce que c'est peut-être pas évident, mais du renminbi, pardon, je vais me faire gronder par Louis Vincent.
Oui.
Mais le fait est que pour l'instant, nous, on reste sur le yen. On vous avait tous dit que on ferait un point à Noël. On n'est pas encore à Noël.
Ouais.
On va voir ce qui se passe dans le parti libéral japonais et on va voir si ça bouge un petit peu. Mais on vous avait jamais dit que ça serait du jour au lendemain. Par contre, on vous a toujours dit que quand ça bougerait et ça, il faut être sur le yen dans les premières 8 heures où ça va arriver parce
bon,
qu'on n'arrive pas.
Très vite,
ça
toujours.
Va être très rapide.
Alors, l'autre chose aussi, c'est que les Américains poussent des cris. Vous savez, en ce moment, la diplomatie américaine, c'est un peu curieux. Le président américain prend une colère et puis il annonce qu'il va vous vitrifier. Puis, deux heures après, quelqu'un lui explique que si on les vitrifie, ben, on n'aura plus de terres rares, par exemple. Et à ce moment-là, toute l'industrie américaine s'arrête. Donc, il dit, bon, ben, alors, je ne vais pas les vitrifier. Donc, c'est la diplomatie américaine. Donc, un de ces quatre, ils vont prendre un coup de sang contre le Japon. Ils vont dire, dites donc.
C'est-à-dire que là, maintenant qu'il a fini avec les otages israéliens, il va peut-être se concentrer un peu sur l'Ukraine. Et une fois que ça sera fini, il va peut-être décider qu'il faut qu'il se fasse le Japon. Ou entre-temps, il va se décider qu'il faut qu'il se fasse... On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Hein, bien malin.
Bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est que, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand vous vous battez contre quelqu'un, si vous savez ce qu'il va faire, c'est quand même plus facile que si vous savez pas ce qu'il va faire, quoi. C'était le drame de la France en 1940, c'est que les Allemands savaient parfaitement ce que les Français allaient faire, quoi. Et donc, c'était pas difficile de faire autre chose.
Alors, j'ai une question sur la Chine. Que te pose Grégoire. Vous nous avez expliqué à plusieurs reprises que les taux bas n'étaient pas bons pour une économie et qu'ils devaient être au taux moyen de rendement du capital, ce qui permet d'éviter la mauvaise allocation de capital, évite comme cela la création de richesses sans cause pour les copains proches de la banque centrale.
C'est très bien ça.
Ouais.
Il a tout compris.
En Chine aujourd'hui, les taux sont bas, moins de 2% sur le 10 ans, alors que la croissance est encore au rendez-vous. N'y a-t-il pas un risque de rentrer dans la même dynamique qu'en Occident avec une inflation des actifs sans cause sous-jacente due à un crédit trop facile? Et que faut-il penser de la dette publique chinoise qui serait de 300% du PIB?
Oui, alors...
Il y a deux questions. Donc.
Il y a deux questions. La première question, on va traiter la troisième qui est la plus facile, 300% du PIB. Comme c'est les Chinois qui ont prêté aux Chinois, comme j'ai souvent expliqué, si vous avez de la dette comme au Japon, si vous voulez, si j'emprunte de l'argent à mon fils, la dette de la famille consolidée est de zéro. Donc le danger d'une dette, c'est si elle est tenue par des puissances extérieures. La France a 50% de sa dette qui est détenue par des étrangers, ça la rend extrêmement vulnérable. Bon. Donc le 300%, je m'en contrefous. Et en plus, si j'ose dire, vous regardez la dette chinoise, en face, vous avez des actifs qui ont été créés absolument monstrueux, des routes, des hôpitaux, des trains rapides, des aéroports, tout ce que... Donc, si un jour la Chine décide de vouloir privatiser un certain nombre, les autoroutes ou les aéroports, etc., ils vont vendre ces trucs-là et ils pourront rembourser leurs dettes sans aucune difficulté.
Comme on a fait, nous, de vendre nos autoroutes... peut-être à tort, peut-être mal, mais bon...
Mais en tout cas, je veux dire, c'est une façon... Contre la dette chinoise, il y a eu des investissements monstrueux. Contre la dette française, il n'y a rien eu du tout. Ça a été des transferts sociaux. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Les Chinois ont des actifs monstrueux qu'ils peuvent vendre. Ils ont investi. Nous, on n'a rien à vendre, quoi. On se retrouve avec la dette, mais il n'y a pas eu d'augmentation de nos capacités de production. Là, l'augmentation est gigantesque. Maintenant, les taux d'intérêt bas, il faut savoir qu'en Chine... Il se passe un phénomène qui est curieux, c'est que il y a une génération qui est très malheureuse, c'est à peu près celle qui a l'âge d'Emmanuel. Vous voyez, c'est un peu parce que ils se sont trouvés donc arrivés au début, puis ils ont beaucoup emprunté pour acheter l'immobilier et ils ont pris une énorme claque hein, sur l'immobilier qui a baissé de 20-30-40%. Donc ils ont donc ils sont malheureux. Les anciens sont pas très malheureux. Les jeunes, ça va, ils n'ont pas de dette, donc ils ont peut-être un peu plus de mal à trouver du boulot, mais enfin, c'est pas... Et donc, il faut, ce qu'il faut, c'est... Il y a eu le bilan des gars qui ont 35, entre 35 et 50 ans, mettons, a pris un coup sur la ligne de flottaison terrible à cause de l'immobilier. Mmh. Mais ces gens-là aussi sont souvent ceux qui sont actionnaires. Oui. Donc, peut-être, les taux d'intérêt bas vont permettre de faire monter le marché des actions, un petit peu comme aux États-Unis, et rebâtir le bilan de ces gars-là, quoi.
Mais oui.
Parce qu'ils bon, ils vont gagner sur les actions ce qu'ils ont perdu sur le... Et donc, à ce moment-là, le moral ira mieux. Donc, c'est vrai, mais l'idée d'avoir des taux d'intérêt qui sont sur le taux de croissance, ce qui est une bonne idée, ça marche si le pays n'a pas un compte capital ouvert. C'est-à-dire si... Parce que ce qui se passe, c'est ce qui se passe au Japon. Si tu mets les taux d'intérêt trop bas, pouf, le type, il va investir à l'extérieur. Mais en Chine, ils ne peuvent pas. Donc, la Chine, par définition, a des taux d'épargne monstrueux. Et ils, à part là, ils n'ont pas grand-chose qu'ils peuvent acheter à l'extérieur, quoi. Donc, il faudra donc un jour... c'est pour ça que les taux d'intérêt restent bas au Japon, c'est que ils ont une épargne excessive, quoi.
Oui.
Et logiquement, une épargne excessive avec des sociétés qui marchent bien, qui payent des dividendes, un de ces quatre, ils vont dire j'en ai marre d'avoir du cash à la banque qui me paye rien, je vais acheter des actions, quoi. C'est un peu pour ça qu'on est bourré d'actions chinoises, quoi.
On peut espérer, d'autant que on voit toujours ça dans les développements des pays, c'est-à-dire que dans un premier temps, les gens n'y pensent pas parce que c'est une question d'éducation aussi.
Oui,
on ne pense pas aux actions, on pense d'abord à l'immobilier,
toujours,
à une voiture, et ainsi de suite.
Ouais.
La première chose, c'est l'immobilier, d'abord pour vivre dedans.
Ouais.
Étant donné qu'ils se sont pris une première culotte en termes de spéculation, ça va moins aller sur l'immobilier. Les gens, un jour, vont découvrir le marché des actions et ça va avoir
Mais
un boom pas possible.
Surtout que tu te dis, bon, ben, telle action que je connais, je sais pas, elle paye du 4% de dividende, alors que je touche du 1% sur mon compte bancaire, ben, je vais acheter le 4%, puis je vais plus regarder le cours, parce que je toucherai
voilà,
le dividende.
Voilà, un peu l'équivalent d'un L'Oréal ou d'un Air Liquide, c'est-à-dire que tu le prends
en
local.
Tu le prends, et puis t'achètes. J'avais montré qu'en général, dans les marchés des actions, dans tous les pays du monde, ça n'a rien à voir avec la Chine, quand le dividende devient supérieur au rendement des obligations, tu te dis, ben, je vais acheter des actions.
Bah,
parce que,
oui. Donc
c'est là où ils sont.
Alors, très bien. J'ai une question de Thibault qui se pose la question. Il voudrait investir sur le marché des actions, mais il voudrait être patriote dans ses achats. Donc il voudrait acheter des belles actions françaises en restant sur des valeurs françaises. Qu'est-ce que tu lui dirais d'acheter ?
Alors, ben, je lui dirais d'acheter ce qu'il peut acheter assez facilement. Patriote... c'est pas du tout des recommandations, mais des valeurs françaises qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires en dehors de France et qui sont très bien gérées, très rentables, etc. Alors, tu as L'Oréal, bien sûr. Tu as Air Liquide. Tu as Schneider. Tu as Legrand. Tu as peut-être Saint-Gobain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah, tu as peut-être ceux qui font les réacteurs, là, la Snecma.
Oui.
La Snecma. C'est bien ça, mais ceux-là, ils ont leurs usines en France, beaucoup. Tu as Dassault, hein, et Dassault Systèmes. Donc, il y a quand même 7 ou 8 valeurs comme ça qui sont... tout à fait étonnant, parce que ce sont des valeurs industrielles, hein, mais qui ont assez peu d'usines en France, à l'exception de Stecma et de Dassault, qui ont leurs usines en France. Mais pour des raisons... ce sont des trucs militaires, donc ça, c'est autre chose. Mais donc, il me semble qu'en effet, vous pouvez... Mais là encore, ça suppose un petit peu de recherche individuelle, donc d'analyse financière. Et là encore, il faut peut-être... il faut bosser, peut-être aller voir Hibou... Peut-être, voilà. Donc, il y a de quoi faire, parce que la France a cet avantage immense d'avoir ces sociétés qui sont des sociétés industrielles magnifiques, mais qui n'ont pas d'usine en France. Ce qui est quand même rigolo, parce qu'elles ne peuvent pas gagner de l'argent avec des usines en France, donc elles les foutent ailleurs. Mais elles restent françaises.
Oui, ben voilà.
C'est pas mal.
Alors, tu as Tom Barré, qui visiblement vient de se réveiller d'un long coma. Non, je plaisante, mais qui te pose la question suivante. Bonjour, je n'ai aucune confiance en l'euro. Dois-je vendre ma position support euro assurance vie? Si oui, pour investir en quoi?
Ah ben, s'il a des obligations en euros françaises...
En euros, il vient de se réveiller dans le
Écoutez, ça ne fait jamais que 7 ans qu'on doit dire, ça... surtout pas une obligation française, ouais. Donc...
Bon, on se moque pas, on blagouille.
On ne lui en veut pas, on ne lui en veut pas, mais surtout qu'il en sorte, et à ce moment-là, ça dépend de la taille de sa position, etc. Mais soit il achète les actions françaises dont je viens de parler dans un contrat euro, ce qui est une façon de...
Vous les aurez au PEA, vous au PEL, et ainsi de suite.
Vous pouvez les coller
dans... Les belles actions françaises comme ça.
Des belles actions françaises. Soit vous vous abonnez à l'Université de l'Épargne, et puis vous rejoignez la communauté, puis... Vous essayez de bâtir un portefeuille qui ressemble un peu au nôtre, quoi. C'est, qui est tout à fait honorable et surtout qui a une volatilité assez faible. Ce qui est notre but, hein. On essaye de vous faire gagner de l'argent avec une volatilité qui vous empêche pas de dormir la nuit, quoi.
Alors, c'est la même question que Nico, qui disait qu'il voulait investir en tant que débutant, plutôt broker ou banque en ligne par les temps qui courent. Alors, bah, si vous vous posez ce genre de questions, vous pouvez, moyennant 400 euros par mois, par an, avec l'Université de l'Épargne, notre université, donc vous apprendre à comment faire, par quel CTO, donc compte passer. Alors, pour ce qui est des brokers ou banques en ligne, vous pouvez passer par XTB, par Swissquote, qui est un peu plus cher, mais qui offre des bons services. Vous avez eToro, enfin, vous avez... pas mal de banques en ligne qui vous permettent ça. Il faut que vous regardiez les frais, il faut que vous regardiez si vous...
Et aussi les conséquences fiscales. Et là, on a deux ou trois cours, justement, qui ont été faits par un excellent spécialiste sur les conséquences fiscales de vos choix.
Sur etc. l'or aussi, parce qu'il y a une fiscalité de l'or et ce genre de choses.
Voilà. Encore une fois, quand il s'agit de gérer votre propre argent, dites-vous bien que c'est la première démarche que vous devez faire pour devenir libre. C'est pas tellement que vous allez gagner des 100 et des 1000, vous allez gagner votre vie, ça va être bien sur le long terme, je me fais aucun souci, mais c'est une démarche pour devenir libre. Et ça suppose que quand même, il y a un petit effort au départ de votre part pour prendre en main ça, ce qui suppose un petit peu de travail. Mais ensuite, vous apprendrez tout du long, mais si vous faites pas ce petit travail au départ... qui est d'administration, littéralement, bah, vous n'y arriverez pas. Quoi.
Et pour vous aider, Charles a écrit l'an dernier un petit ouvrage très pratique qui s'appelle « Cessez de vous faire avoir » que vous pouvez retrouver aux éditions Pierre de Taillac, qui vous explique vraiment comment penser un portefeuille. Parce qu'un portefeuille, c'est un écosystème, ça se réfléchit dans sa globalité, pas simplement ligne par ligne, position par position. Et grâce à cela, vous pourrez vous bâtir un petit outil qui vous permettra de conserver vos avoirs, de faire mieux en réel que l'inflation et de vous donner du entre 6 et 8% si Dieu veut. Et voilà, et comme ça, tranquillement, sans prendre de risque, parce que l'idée, c'est pas de se réveiller toutes les nuits en disant « mon Dieu, il faut que je fasse... » Non, non, on fait quelque
c'est
chose
pas du spé... de... Par exemple, dans le portefeuille de l'Université
d'Épargne, c'est pas du spéculatif du tout.
On a fait aucun mouvement, ou très peu, depuis un an, quoi. Vous voyez, je voulais dire, c'est... Gérer de l'argent, c'est pas regarder l'écran tous les jours et réagir en fonction de ce qu'il y a sur l'écran.
Il y en a qui veulent faire ça, mais c'est un métier, c'est pas le nôtre.
C'est pas le nôtre, et puis en plus, je suis pas sûr qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, j'ai vu des tas de jeunes traders, j'ai vu assez peu de vieux traders. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, vous avez ça, on essaye d'apprendre, et pour revenir à une idée qui est centrale, si vous voulez, c'est que 80% de la performance de l'épargne, d'une épargne, vient de la construction du portefeuille dans lequel vous avez mis cette épargne. Et 20% vient des choses individuelles que vous avez mis dedans. Donc nous, on passe tout notre temps sur les 80%. Et les choses individuelles, finalement, c'est important, mais ça l'est beaucoup moins. Donc il faut réfléchir sur la construction de votre épargne en partant d'un principe qui est essentiel, c'est ce qui compte, c'est pas là où vous allez gagner de l'argent, hein, c'est là où vous allez en perdre, vous risquez d'en perdre. Donc, si vous mettez dans votre portefeuille, vous essayez d'exclure tout ce qui a une chance de baisser, et que vous y arrivez, eh ben, vous aurez des très bonnes rentabilités. Donc, c'est un peu l'idée, c'est le processus qu'on recommande, c'est un processus d'exclusion. Les choses qu'il faut pas avoir, puis ensuite, vous pouvez vous amuser avec ce qui reste. Mais la plupart des gens vous disent, donc il y a deux façons de gérer l'argent, c'est get rich ou stay rich. Vous voyez, donc nous on est dans le stay rich. On veut que vous montiez en termes réels de 4, 5, 6% par an si c'est possible. Ce qui veut dire à 6% par an en termes réels, vous doublez votre capital tous les 12 ans. et vous quadruplerez votre capital sur l'histoire de votre vie. Mettons 20 ans, 12 ans, 24 ans de travail, peut-être 36. Ou, bon. Donc ça veut dire que quand même, si vous êtes constant, si vous travaillez bien, si vous faites les trucs dans l'ordre, ben vous aurez une retraite sans aucun problème. Et elle ne sera pas dépendante de l'État.
Super.
Il n'y a pas d'autre idée, quoi. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est vous aider à être libre.
Alors, tu as Michel qui te pose la question suivante. Bonjour Monsieur Gave et merci de partager votre savoir et expérience. Pensez-vous que les monnaies numériques sont un remède aux crises actuelles et la panacée en matière de placement ? Font-elles partie des valeurs de rareté ou d'efficacité ou autre ? Merci.
Alors, question très intéressante. Vous avez deux sortes de monnaies numériques. Hein. Vous avez le Bitcoin et vous avez les autres. Bon. Alors, le Bitcoin, c'est un animal à part où il y a un processus de création de monnaie qui est contrôlé plus ou moins par ceux qui sont dedans. Donc, pour moi, le Bitcoin, j'aime bien parce que c'est une tentative de créer une réserve de valeur qui est faite par le secteur privé. Donc, ça me paraît très bien comme idée. Donc, le Bitcoin, j'aime bien. Vous pouvez avoir du Bitcoin, ça ne me gêne pas du tout. Ça bouge beaucoup, mais je m'en fous. Ça me paraît bien. Les autres monnaies, essayez de réfléchir une seconde. Par exemple, les gens me disent, mais vous savez ce qu'il va faire le gouvernement américain ? C'est qu'il va émettre des stablecoins, c'est-à-dire, des dollars, allez, qui seront adossés à des obligations américaines. Donc comme ça, les stablecoins achèteront les obligations américaines, ce qui réglera le problème de la dette. Mais je leur dis, la comptabilité en carte partie double, ça existe. Il faut d'abord créer le dollar, qui ensuite sera adossé à l'obligation américaine.
Moi, personnellement, l'histoire de stablecoin, j'ai essayé de lire le truc, j'ai l'impression que c'est une histoire de corne-cul pas possible.
C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 30 000 milliards de dollars de dette. Si tu veux créer 30 000 dollars de stablecoin, il faut d'abord imprimer 30 milliards de dollars de stablecoin, c'est-à-dire que tu augmentes la masse monétaire, tu la doubles, et tu t'imagines que...
Ça va passer sans inflation, sans augmentation.
Ils sont fous comme des lapins. Donc, encore une fois, c'est des astuces comptables à la noix pour essayer de ne pas prendre...
Mon analyse, c'est que Trump a sorti ça de son chapeau pour faire suer Powell.
Oui.
Soit il le sait pas et quelqu'un une grande personne va lui expliquer un jour ou l'autre, mais en tout cas c'est infaisable.
Il faut que Steve Bassett lui explique. Mais non, ce que j'essaie de dire, c'est que toutes ces histoires de on va créer une nouvelle monnaie qui on prendra l'ancienne monnaie pour l'adosser à la nouvelle monnaie, comme ça il y aura pas de on n'aura plus les problèmes de dette. Mais attendez une seconde, il faut d'abord que vous créiez les 30 000 milliards de dollars. Ça va pas la tête. Et donc, vous croyez que ça va se faire gentiment comme ça, tout seul ? Ça n'y aura pas d'effet sur l'inflation ? Vous allez doubler la masse monétaire et vous m'expliquez parce que vous prenez l'ancienne partie pour la mettre en garantie de la nouvelle. Ça va... Non, mais ils s'en foutent, quoi. Donc, il y a dans la pensée de tous ces gens au gouvernement, c'est pas de nouveau d'ailleurs, un arrière-fond de pensée magique qui est très inquiétant, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on peut faire plein de bêtises et pas payer le prix. Mais ils sont là tout contents en disant j'ai trouvé une façon de que vous continuez à vous saouler la gueule. Quoi. Ben non, si je prends un remède, là je vais avoir une cirrhose du foie. Quoi. Donc, ou ils se foutent de moi, ce qui n'est pas impossible, ou ils sont complètement incompétents, ce qui est encore pire.
Ce qui n'est pas impossible du tout, non plus, par les temps qui courent. Alors, tu as Adrien qui a une question un peu velue, mais on arrive dans ce moment-là. Le fait est que le portefeuille idéal UDE finance la chute de l'UE et plus spécifiquement la France. Est-ce une prophétie autoréalisatrice méritée qui va dans le sens du mondialisme contre nous, des gens des arbres, contre notre principe souverain même ? Vous critiquez l'interventionnisme étatique, mais admirez l'industrie issue des politiques gaulliennes. C'est aussi, en quelque sorte, la même question à une échelle nationale. N'est-ce pas en pleine dissonance cognitive ?
C'est une question intéressante, parce que c'est une question de... Je vais y répondre de cette façon-là. C'est de dire... Sous De Gaulle, il n'y avait pas de déficit budgétaire. Point barre. Nous étions en excédent. Et pourtant, il faisait des investissements monstrueux dans les centrales nucléaires, dans la force de frappe, dans les avions, l'Airbus, tout ça. Bon. Donc, l'idée que propagent les gens de gauche que pour que le gouvernement fasse des investissements, il faut qu'il y ait des déficits budgétaires, c'est faux. Le premier devoir d'un État, pour qu'il reste démocratique, c'est qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, puisque le déficit budgétaire se transforme en dette, et cette dette est ensuite payée par les enfants qui n'ont pas voté pour ça. Donc, je réponds à cette question. Si la France était en excédent depuis 40 ans, on ne serait pas dans le merdier dans lequel on est. Donc la première responsabilité...
C'est pas faux.
Et regarde, en Suisse, ils ont fait plein d'investissements. Leur industrie aujourd'hui, en termes nominaux, est supérieure à l'industrie française, ce qui est incroyable. Et ils n'ont pas de déficit budgétaire. Donc, pour moi, c'est la fausse question. Donc, j'ai besoin d'être en déficit budgétaire pour faire des investissements dans les centrales nucléaires. Pipo baratin.
Alors, moi, j'ai autre chose que j'aimerais répondre à Adrien, c'est que aussi, alors ça rejoint peut-être ce que dit Philippe Fabry dans les cycles d'historionomie, mais la France d'après-guerre, c'était une France ricardienne. Il n'y avait plus rien, on avait tout détruit. Donc il a fallu construire des autoroutes, il a fallu construire des cités, il a fallu construire des stades, il a fallu construire des piscines. Quand on fait tout ça, évidemment, quand le bâtiment va tout va, on est dans une pleine phase d'expansion.
40% de la population était paysanne, elle s'est retrouvée d'un seul coup.
Dans le centre rural, la ruralité est venue à la ville, on a eu un développement citadin. Bon, voilà, tout ça allait de pair. Donc ça a permis aussi un accroissement de richesse qui est arrivé d'une certaine façon. Aujourd'hui,
qui a beaucoup bénéficié à l'immobilier, ce qui était très bien.
Voilà, aujourd'hui, 2025, on est dans une période de temps où, au niveau mondial, on se rend bien compte avec la globalisation que comme font les socialistes, on se dit on va injecter par la consommation, on va se retrouver à acheter des baskets Nike, plus de baskets Nike et plus d'iPhone, ce qui ne va pas véritablement relancer l'industrie française. Je pense qu'à ce stade, tout le monde s'en rend compte. Et par ailleurs... On ne va pas se mettre à reconstruire des autoroutes parallèles aux autoroutes Vinci. C'est un peu le sapeur camembert. On ne va pas commencer à payer des gens à faire des trous sous prétexte de faire des trous. Il faudrait quand même qu'il y ait une réalité aux trous en question. Donc on est dans une croissance, si elle doit être, qui ne peut être que schumpeterienne, c'est-à-dire du jus de crâne. Et le jus de crâne, aujourd'hui, c'est possible sur une partie de la population, mais malheureusement, avec notre éducation nationale qui est ce qu'elle est, on va en produire de moins en moins. Donc on arrive dans ce temps où on nous a expliqué qu'il fallait importer de la main-d'œuvre bac-7, mais je vois pas très bien ce qu'on va en faire, alors que justement, on aurait besoin de bac+15. Ça aussi, ça se réconcilie mal quand même.
Ça se réconcilie très mal. Et alors, il y a aussi autre chose qui se réconcilie mal, qu'il faut dire à ce moment-là, c'est nos systèmes fiscaux. Parce que aujourd'hui, la création de valeur dans une société de la connaissance, ça fait à peu près 20 ans qu'on a parlé de la société de la connaissance, c'est la troisième révolution industrielle. Il y a eu l'agriculture, puis l'industrie, et maintenant il y a la société de la connaissance. J'avais fait un livre là-dessus qui s'appelait « C'est une révolte, non sire, c'est une révolution » il y a 20 ans, un peu plus. Donc on rentre dans cette société. Mais aujourd'hui, la valeur, c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Et ces 0 et 1, ils apparaissent de façon stupéfiante de plus en plus dans des endroits où les impôts sont gentils.
Écoutez, c'est pas pour parler de moi, mais on en sort. On était juste avant avec notre fiscaliste, donc on a créé l'université de l'épargne il y a un an et demi, presque.
Un an et demi.
Là, aujourd'hui, on doit payer l'IS. Donc l'IS, ça va être plus ou moins 200 000 euros. La TVA, ça va être un peu plus que 200 000 euros. Donc, mis bout à bout, on va payer un demi-million pour une activité qu'on pourrait, puisque c'est faire des vidéos, qu'on pourrait faire à Dubaï. Donc, on reste en France parce que tel est notre souhait. Mais ce demi-million, on pourrait le garder en compte associé.
Et on pourrait surtout faire des investissements, commencer à faire des...
Recruter des fiscalistes.
Recruter des gens qui le feraient nos émissions en anglais, en français, en espagnol, en italien ou j'en sais rien. Donc on
aujourd'hui,
pourrait se développer.
Je, en tant que gérante principale, vais payer un demi-million pour l'État français. Et
qu'est-ce qui nous a amené c'est intéressant. Donc, vous voyez, ce que dit ma fille, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui... des gens, bon, au niveau de notre, à notre niveau, petit niveau, c'est déjà énorme, mais pensez à Microsoft, pensez à tous ces gens-là. Ils vont faire apparaître leurs bénéfices en France, ailleurs qu'en France, c'est-à-dire en Irlande, ils seront taxés 3 ou 4%, la place est taxée à 28 ou à 29. Donc, il faut que nos systèmes sociaux, nos fiscaux s'adaptent à cette nouvelle création de valeur. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est effrayant, c'est que tous les types qui ont des idées de développement de ce genre de société qui passent par le net, ils sont tous à Dubaï, quoi, parce que là, ils ne payent pas d'impôts. Et, mais, enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire de penser que nous, on continue à taxer comme si on était une épicerie qui ne peut pas s'en aller, quoi. Penser qu'aujourd'hui, les gens créateurs de valeur peuvent aller se mettre là où ils seront le moins taxés possible, c'est peut-être une réflexion qui devrait mener au ministère des Finances, quoi.
Qu'est-ce que tu penses du dernier prix Nobel ?
Oh, je le connais, il est pas mal. Pour une fois, il dit pas que des bêtises.
Mmh, mais pour une fois, on comprend ce qu'il dit, parce que la plupart du temps, on donne ça à des gars qui font de l'économétrie auxquels, pardon, mais on bite rien.
On bite rien, non, il est.
Déjà, ça part de Schumpeter, donc.
Ça part de Schumpeter, la création destructrice. Donc, quiconque accepte la création destructrice accepte qu'il y en ait besoin de prix libre, qu'il y ait un processus de destruction. Donc, c'est déjà. Une immense avancée intellectuelle en France. Voilà. Donc, moi,
j'ai bien aimé ce qu'il a dit à Zucman. Il a dit, Gabriel, c'est Raphaël. Non, comment il s'appelle? Si tu fais ça, d'abord, les gens vont partir.
C'est ce qu'on vient de dire.
Voilà. Et on va se retrouver avec justement une assiette fiscale qui va être, la mise en pratique de l'affaire, quoi.
C'est-à-dire qu'à partir du moment. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est extraordinaire pour une petite activité française comme la nôtre, on s'adresse. Il faut bien se rendre compte qu'on pourrait la faire dans des endroits, si on allait en Italie du Nord ou j'en sais rien, où on serait taxé à 10% de ce qu'on paye aujourd'hui.
12, donc, oui, c'est donc, ça, on négocie
donc on
avant.
On se dit, mais vous taxez comme si on était encore des paysans et des gars qui faisaient de la fonte à Nancy. Mais c'est plus du tout ça la création de richesse. Donc, mais réfléchissez, transformez votre système fiscal de façon à ce qu'ils prennent en compte ces gars-là et que vous les attiriez à la place de les faire partir.
C'est-à-dire qu'on pourrait payer, je pense, 100 000 euros au lieu de payer 500 000, quoi.
Mais c'est-à-dire que tu fais ce que fait l'Italie du Nord. Tu dis, si vous lancez une activité comme ça,
on fait
un forfait, vous payez 100 000 euros
les trois premières années.
Les cinq premières années. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais cette façon de taxer des gens dès le départ, automatiquement, et de leur coller des frais pas possibles, surtout, c'est très facile de les éviter, quoi. Tu prends un avion, tu vas en Italie du Nord, c'est pas. Vivre dans la région des lacs, c'est pas l'enfer. Hein.
Ah, c'est pas l'enfer, je te confirme. Alors, tu as une question de 6 sous sur le pétrole. Les investissements dans le pétrole repartent avec des sociétés comme Vallourec et Viridien, que je ne connais pas. Ces titres peuvent-ils entrer dans le portefeuille? Et en gros, que penses-tu des investissements aujourd'hui, là, des pétrolières?
C'est intéressant, les pétrolières, parce que.
Bon, déjà, Charles a fait des grandes recherches sur les cycles du pétrole, les cycles de l'énergie.
Les cycles de l'énergie, qui est un cycle d'à peu près à 30 ans, et on arrive à la fin du cycle où le pétrole est bas, donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est une question intéressante quand il parle de Vallourec, parce que Vallourec, quelque part, c'est les pipelines. Donc, on peut penser qu'avec l'immense pipeline qui va se produire, qui va partir de la Sibérie du Nord pour aller jusqu'en Chine, là, on va avoir besoin de pipelines et tout. Et logiquement, ça devrait être le cas, mais malheureusement, on est fâché avec la Russie. Donc ils vont peut-être acheter leur pipeline plutôt en Chine, tu vois, ça me paraît. Et alors ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que je vois ressortir en Allemagne Gerhard Schröder. qui était l'un des meilleurs chanceliers allemands, qui a été battu par Madame Merkel. Ce qui était très dommage, parce qu'il avait fait du très bon boulot, il avait réformé l'industrie allemande. Il a toujours été un partisan acharné de l'alliance naturelle entre la Russie et l'Europe, quoi. Vous voyez, ça a toujours été son. Donc, il a même, je crois qu'il est toujours d'ailleurs au conseil des grandes sociétés pétrolières russes. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui ressortir un gars comme Gerhard Schröder, parce que ça veut dire qu'il y a des gars en Allemagne qui se disent, mais on est en train de se faire massacrer par les Américains, il est temps de reprendre notre autonomie. Quoi.
Ce que Charles dit est important, c'était, il vous en a déjà parlé, la grande théorie de Brzezinski, qui était avant aussi une théorie de Napoléon, de conserver la Russie et l'Allemagne fâchée, pour empêcher quelque part une grande Prusse.
Et de maintenir la Russie pauvre et l'Allemagne sous tutelle.
Et pour l'instant, force est de constater que l'UE a très très bien réussi ça, avec les accords de Minsk qui ont été et cette guerre avec l'Ukraine qui, honnêtement, était complètement idiote. Non pas que je considère qu'il y a des guerres intelligentes, mais ça l'est particulièrement stupide.
Elle reparle un peu la guerre de 14. Si vous voulez, c'était la plus bête de toutes.
Voilà, précipitons-nous vite, histoire de détruire l'Europe. L'état de somnambulisme avancé de nos dirigeants laisse quand même à réfléchir sur leur capacité à entrevoir le futur.
Moi, je suis très
futur.
Intéressé d'un seul coup de voir Schröder ressortir, parce que c'était un type... Vous savez, de temps en temps, vous voyez un homme politique qui a fait du bon boulot, il a nettoyé au moment de la réunification allemande, il a fait des bons, très bons travaux, et l'Allemagne est sortie de... Il a été, j'en suis, je crois, 7 ans... est sorti très renforcé de Schröder. Donc, voir un type de la qualité de Schröder revenir dans le débat politique dont il était sorti depuis 20 ans, je trouve ça très...
Bah, c'est un peu comme Farage qui voulait sortir du débat et qui, devant les couilles molles du Parti conservateur, c'est dire, les gars, il faut que j'y retourne. Mais franchement...
Il y va.
C'est vraiment parce que vous êtes tous des nuls. Hein.
Exactement, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, moi, vous savez... Je suis pas un homme politique, je suis un businessman, mais ça fait 40 ans que je fais de la politique, tellement les
tellement vous êtes
tellement vous êtes
des couilles de loup, quoi.
Exactement, c'est effrayant.
Alors, tu as Robert qui te pose la question suivante. Il a lu le livre de Charles, il a bien compris que le portefeuille de l'UDLE visait le long terme. Oui. Néanmoins, qu'appelle-t-on le long terme? J'ai un projet immobilier dans 5 ans. Est-ce que je peux quand même investir en visant le 5% par an?
Oui, sur 5 ans, probablement. Probablement parce que notre volatilité est assez faible. Donc, s'il me disait « je veux investir 100% en actions », je lui dirais non. Parce que 5 ans, vous pouvez être au fond du trou dans 5 ans. Tandis que là, avec le portefeuille, si tout va à peu près normalement, vous devriez avoir plus d'argent dans 5 ans que vous n'en avez aujourd'hui. Quoi. C'est à peu près ce qu'on a trouvé avec le portefeuille tel qu'on l'a bâti. Donc oui, vous pouvez. Sur 5 ans, vous pouvez.
Alors... on aimerait savoir aussi, dans un scénario de faillite de l'État français, comment véritablement sont protégés. Et aussi, la question, c'est si jamais on devait sortir de l'UE tel que tu l'envisages, qu'est-ce qui se passerait sur les taux d'intérêt de notre dette et sur le futur franc français?
Alors, ça c'est Madame Soleil, hein, mais je vais essayer de répondre quand même du mieux que je peux. Un État ne fait pas faillite. C'est les gens qui l'ont prêté de l'argent qui font faillite. Tu vois ce que je veux dire, par définition. Donc, quand Philippe II d'Espagne a pas payé sa dette à la surpréfection générale, alors qu'il avait tout cet or qui arrivait d'Amérique latine, c'était en 1500, je sais plus combien, 1540, je sais plus quoi. Bon, l'Espagne a continué à fonctionner, hein, le royaume, il n'y avait pas de problème.
Par contre, les banquiers italiens...
Par contre, les banquiers italiens, ils ont tous sauté.
Ils ont fait bancarrota.
Bancarrota, banqueroute, c'était... Parce qu'on cassait quand vous étiez à Venise, vous saviez, vous aviez un banc quand vous étiez banquier, vous aviez une petite table sur laquelle vous échangez les monnaies. Et quand un banquier ne pouvait pas honorer ses dettes, à ce moment-là, il y avait les flics
les
qui arrivaient et qui
là.
Cassaient sa table, et bancarrota, c'est-à-dire qu'ils cassaient la table, bon, ben, non, c'est la banqueroute. Donc la France continuera comme de, enfin je veux dire, oui. Mais tous les gens qui, dans le fond, comptaient sur la France pour continuer à vivre, par exemple les fonctionnaires ou les créditeurs, ceux qui ont prêté de l'argent aux obligations, eux, en Russie, par exemple, ben, aujourd'hui, un général de l'Union soviétique, il doit avoir en retraite à peu près de quoi acheter une baguette par jour, quoi. Donc, il faut bien comprendre qu'un État ne peut pas faire faillite, mais que ceux qui lui ont prêté de l'argent peuvent tout à fait faire faillite. Donc, nous, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est ne soyez pas dans la situation de celui qui a prêté de l'argent à l'État français ou qui a besoin de l'État français pour vivre.
D'où le fait, je reviens à la question suivante de notre ami qui sortait du coma, de sortir votre argent des assurances-vie si ce n'est déjà fait. Je crois que j'ai dû le faire dans à peu près toutes les émissions, mais 100 fois sur le métier,
et
tu remettras...
Droit. Et alors, l'autre chose qui est importante, bien sûr, c'est l'État ne fait pas faillite, mais il y a des outils que l'État a émis qui resteront dans le marché, par exemple les obligations françaises. Alors si on sort de l'euro comme ça, si on sort de l'Europe, etc., il va y avoir une panique à la vente et tout. Et à ce moment-là, pour celui qui a vraiment du courage, vous pourrez acheter des obligations françaises, peut-être à 10, 12, 13, 14%, en partant du principe que la France va se redresser derrière. Et ça ne sera pas une mauvaise idée. Mmh. Et probablement dans une monnaie qui sera très sous-évaluée. Mmh. Parce que la France a quand même beaucoup d'actifs que les étrangers voudront acheter. Donc au départ, la monnaie s'écroule, puis ensuite le type te dit, bah, à ce prix-là, je vais acheter du franc français pour m'acheter de l'appartement d'un Jojo rêvé dans le 7e à Paris, tu vois. Mmh. Donc à ce moment-là, il y aura des rentrées
qui reste capitaux. Une valeur de rareté, parce qu'il n'y a jamais qu'un certain nombre d'appartements dans le 7e.
Et donc, à ce moment-là, vous avez donc le scénario habituel, c'est que la monnaie s'écroule, les taux d'intérêt montent énormément, puis il y a des gens qui se disent, à ce prix-là, je vais m'acheter une villa à Saint-Tropez, quoi. Et il y a les capitaux qui commencent à rentrer, et les flux de capitaux deviennent supérieurs aux capitaux qui sortent. Et à ce moment-là, la monnaie se remet à remonter, les taux se remet à baisser, et le bull market commence. Donc, c'est à peu près ça. Là, on a la gamelle, les taux d'intérêt qui montent, la panique, c'est la fin du monde. Et il faut toujours acheter au son du canon, et à ce moment-là, vous dites, bah tiens, pour nous, le premier immobilier qu'on a acheté avec ta mère, c'était dans le 7e à Paris, là, justement, où il y avait un bien immobilier qui nous avait bien plu, c'était quand le Crédit Lyonnais a sauté. Mmh. Ben, parce qu'on était le seul acheteur ce jour-là à Paris, quoi. On l'achetait pas cher.
Ouais.
Ben voilà, quoi. Donc c'est un peu ça le mécanisme. Mais ça se passe en 3 ou 6 mois, tu vois, c'est...
Alors, tu as la dernière sur une question très technique, qui est une question d'Agani. Il nous a fait un graphique logarithmique que je ne peux pas vous montrer, mais sa question est la suivante, c'est sur l'or. Même si l'or est haut, il a par le passé montré qu'il peut multiplier sa valeur par 25 par rapport au dollar.
Oui.
Vous verrez les pourcentages de hausse par rapport au point bas de chaque période. Oui. Quand je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'il peut encore nous réserver des surprises. Peut-être une stratégie de DCA améliorée avec un renforcement plus agressif sur des corrections. Je me rappelle d'un article idéal il y a quelques années où Charles Gaffe parlait déjà sur l'or et je ne sais plus avec quel calcul, mais il était arrivé à évaluer que son prix pouvait atteindre 8000 et qu'il était extrêmement sous-évalué. Il n'en reparle plus en ces termes et depuis pas mal de temps, mais si quelqu'un retrouvait cet article, peut-être vers 2022 ou fin 2021.
Alors, ce qu'il dit est exact. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait les grandes hausses de l'or. Il y en a eu 3 depuis 71. 3 grandes hausses de l'or. Les deux premiers. Et on peut dire de façon assez statistique que la hausse actuelle n'a rien de spécial par rapport aux deux précédentes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est à peu près à mi-chemin de là. Si la hausse actuelle est comme les deux hausses précédentes, c'est-à-dire 1975 à 1980, ça c'était la deuxième, et la troisième ça a été 2000-2012. Là il y a eu 3 grandes hausses de l'or, et si tu commences bas 100 au début de chacune des hausses, aujourd'hui la hausse est exactement la même, sur la même pente, tu vois, c'est à peu près pareil, et on est à moitié. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on veut. Aujourd'hui, on est à 4 000.
Si tu te mets en logarithmique?
C'est en logarithmique. Si on est à moitié, donc ça veut dire que l'or pourrait aller à 8 000 en fin de parcours. Voilà, là, on retrouve le chiffre que j'avais mentionné. Bon.
Bah, tu vois, c'est un peu son graphique. Enfin, je ne sais pas si tu le vois là en logarithmique.
Ah oui, c'est ça. C'est à chaque fois, c'est ça. Il a fait le même calcul que celui qu'on a fait. Mmh. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'une des façons de sortir de la crise, plutôt que l'espèce de faux nouveaux instruments, c'est dire, dans le fond, les États-Unis ont à peu près, ils ont quoi, 30 000 milliards de dettes, ils en ont à peu près un tiers qui est à l'étranger. Donc tu te dis, ce tiers à l'étranger pourrait être couvert par les réserves d'or que la Banque Centrale Américaine a, qui sont les plus importantes au monde. C'est-à-dire, mettons qu'ils valent 10 000 milliards, ou j'en sais rien, à ce moment-là, pour que on puisse échanger, les Américains puissent dire, écoutez, voilà, je rachète ma dette et je vous donne l'or au prix du marché en échange, il faudrait que ce soit à peu près à 12 000, 13 000 dollars l'once, tu vois. C'est-à-dire, si tu voulais annuler la dette américaine détenus par les étrangers avec le stock d'or américain, il faudrait que l'or aille à 12 000. Donc, si on se dit, bon, ben, moi, je sais pas, mais donc, si le cycle de l'or est normal avec le dollar qui revient un peu à la normale, c'est 8 000. S'il est anormal, c'est 12 000. Et on est à 4 000. Donc, tu te dis, bon, ben, pour l'instant, je le vends pas, quoi.
Ouais, donc on reste sur l'or.
On reste sur l'or.
Et si t'en as pas acheté, t'en prends, là?
Ah oui. Ben, toujours dans la construction des portefeuilles, si tu veux. Je me dis, moi, j'achète pas de l'or, j'achète un portefeuille.
Oui, bien sûr.
Et ce portefeuille, j'ai 25% en or, quoi.
Et là, si tu faisais un portefeuille turc, pour ceux qui nous suivent, vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est un portefeuille plus agressif, c'est-à-dire un portefeuille.
Ben, je me mettrais à 50% mais en action chinoise et 50% en or. Ce sera ça, mon portefeuille turc favori, quoi.
Favori.
Voilà. Ou alors, pour les Français, si vous voulez, vous mettez 50% dans les actions françaises qui n'ont rien à voir avec l'État français, et 50% d'or.
Plutôt, et 50% d'or.
Voilà, et puis
là, les or, l'or, vous avez deux façons. Soit vous achetez un ETC, donc c'est un or papier, quelque part. Soit vous pouvez acheter de l'or physique. Et en ce cas, dans l'UDE, nous avons fait des leçons pour bien expliquer la fiscalité, parce qu'encore une fois, ils vous ont fait un truc dégressif sur 22 ans, si on en retient un, si on retient sa respiration les jours pairs, et si on saute sur une jambe. Donc, dans ces cas-là, voilà, il y a différentes... et c'est vraiment au cas par cas. En général, au bout d'une détention de 20 ans, vous vous en sortez pas trop mal. Mais de toute façon, quand on... ça dépend si vous le jouez en spéculatif. Si vous le jouez en spéculatif, prenez un ETC et voilà.
Voilà, parce que l'ETC, c'est un truc qui est pas
vous
mal.
Vous avez le iShares.
Le iShares, vous en avez un à Francfort aussi qui est coté, qui est fait. C'est que le stock d'or de l'ETC est audité en principe tous les jours par une maison sérieuse pour vérifier que l'ETC n'émet pas plus de papier qu'il a d'or dans le...
Oui, parce que...
Sinon, c'est ce que faisaient les banquiers dans le temps. Ils disaient, personne ne demande le remboursement. Je vais le multiplier, je vais écrire, envoyer 5 fois plus de papier. Et puis c'est comme ça que les banques sautaient, quoi.
Ah oui, les petits malins. Voilà, bon, j'espère que tout ça vous aura diverti, vous aura fait apprendre plein de choses comme d'habitude. On reste là, on prend vos questions en dessous, bien sûr. Et on vous dit, ma foi, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Il faudra
qu'un
jour on fasse une question directe, tu sais.
Oui, mais état. Ça c'est pour l'UDE.
Ça, c'est pour les... Ah, pardon.
Oui, ici on est à l'idéal, mais bien sûr, il faut qu'on le refasse. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.